Rencontre débat avec Paul Ariès ce lundi 13 mai à Arras à l'invitation d'Attaque Artois Ternois. Paul Ariès avec nous par téléphone. Bonjour à vous.
Bonjour.
Paul Ariès, politologue, vous avez écrit des articles pour les journaux comme La Décroissance, Le Monde Diplomatique, et actuellement vous êtes rédacteur en chef du journal Le Sarcophage, qui est devenu La Vie est à nous, Le Sarcophage, et aussi rédacteur en chef d'une nouvelle revue qui s'appelle Les Indignés, avec un Z, une revue trimestrielle. Alors, vous avez écrit sur la malbouffe, sur les sectes, et puis bien sûr sur l'objection de croissance, qui est le sujet de cette rencontre de lundi à Arras. Alors peut-être un mot d'abord sur la décroissance. Dans les discours politiques dominants actuellement, on entend plutôt parler de retour à la croissance, d'emploi, de développement économique, non ?
Ben oui, je dirais que le président Hollande se veut un président normal, mais sa première normalité est de répéter que rien ne serait possible sans croissance économique. Mais je crois qu'il faut préciser que la décroissance, ce n'est pas la croissance négative. C'est pas de faire la même chose en moins. La décroissance, c'est sûrement pas d'appeler les gens à se serrer la ceinture un peu beaucoup, passionnément ou à la folie. Si la décroissance, c'est ça, c'est pas la peine. Le MEDEF le fait très bien. C'est-à-dire que la décroissance, c'est pas le fait de vivre la même vie en moins. C'est l'objectif de changer nos styles de vie, nos façons de vivre. Si la décroissance, si l'objection de croissance, si l'antiproductivisme servent à quelque chose, c'est d'abord dans la volonté d'élargir la critique de ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est foncièrement trois choses. C'est d'abord un système économique qui repose sur l'exploitation du travail, le pillage des ressources naturelles. Je dirais ça, les gauches et l'écologie le disent assez bien, même si on ne rappelle pas assez en quoi notre mode de vie est tributaire de siècles d'esclavagisme, de néocolonialisme. Mais le capitalisme, c'est pas que ça. Le capitalisme, c'est aussi l'imposition de modes de vie, de styles de vie particuliers, de produits spécifiques. Et ça, les gauches et l'écologie ont largement perdu cette critique des modes de vie capitalistes. Mais là encore, le capitalisme, c'est pas que ça, c'est une troisième chose. Le capitalisme, c'est aussi la réponse à nos angoisses existentielles, à la peur de mourir, au sentiment de finitude. Et la réponse capitaliste, c'est le toujours plus. Toujours plus de production de richesses économiques, toujours plus de pouvoir sur les autres ou sur la nature. C'est pas agréable à dire, mais le capitalisme nous fait jouir. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, c'est une jouissance d'emprise. Le problème, c'est tant que nous n'aurons pas d'autres dissolvants d'angoisse existentielle que ceux du capitalisme, on n'y arrivera pas. Et le grand objectif, c'est de passer de cette jouissance d'avoir à une jouissance d'être. C'est la raison pour laquelle moi je me définis aujourd'hui comme un objecteur de croissance amoureux du bien-vivre. Et quand on dit amoureux du bien-vivre, c'est bien sûr un clin d'œil à ce qui se passe dans les pays pauvres, à ce qu'on appelle le mouvement du buen vivir, du bien-vivre, en Amérique du Sud, mais également à ce qui se cherche en Afrique ou en Asie. Moi, rien ne m'énerve plus que d'entendre dire qu'il faudrait arriver à un certain pouvoir d'achat pour commencer à s'intéresser à l'écologie. Que l'écologie, ça serait finalement un truc de riche. Non, c'est faux. Je dirais qu'il existe une écologie des pauvres. Souvent même sans le mot pour le dire. Vous savez, Rimbaud, au 19e siècle, disait qu'il fallait redevenir des voyants. Et c'était même pour lui tout un programme politique. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui aussi, il faut rendre visible l'invisible. C'est-à-dire qu'il faut redécouvrir, je dirais, la richesse des cultures populaires, des autres façons de vivre. Eh bien, la décroissance, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que c'est un mot au but qui sert à pulvériser l'idéologie dominante et à dire la solution, elle n'est pas dans la croissance, elle n'est pas dans le retour de la croissance qui, de toute façon, n'aura pas lieu. Et même si ça pouvait avoir lieu, c'est pas souhaitable. Parce que contrairement à ce qu'on nous raconte depuis un siècle, la croissance, eh bien, elle est génératrice d'inégalités sociales et en même temps, elle bousille les écosystèmes.
Vous parlez dans votre discours, un discours optimiste, hein, décroissance pour les gens, ça peut être synonyme de contraintes, de privation, de donneur de leçons, voire de retour à la bougie ou au charrue à bœuf. Vous vous opposez à ça, une vision vraiment optimiste de l'écologie et de l'idée de décroissance?
Je crois qu'il y a, il y a trois transitions nécessaires. Sortir du capitalisme, sortir du productivisme, parce que je dirais que le pétrole ou les gaz de schiste socialistes ne sont pas plus écolos que le pétrole ou les gaz de schiste capitalistes. Parce que le nucléaire socialiste ne serait pas plus autogérable que le nucléaire capitaliste. Et puis il faut aussi sortir des passions tristes. Je crois que ça, c'est un enjeu considérable. C'est-à-dire qu'il faut en finir à gauche avec toute idée de sacrifice, avec toute idée d'ascèse. Je dirais que chaque fois qu'on parle de sacrifice, et on voit le gouvernement aujourd'hui qui dit qu'il faut serrer la ceinture pendant 3 ans, et après, peut-être, on aura un léger espoir que ça aille mieux pendant 2 années. Chaque fois qu'on parle de sacrifice, il faut toujours un appareil pour gérer ce sacrifice. L'Église, ben, elle nous a promis le paradis céleste, et puis on a eu l'Inquisition, le fondamentalisme, l'intégrisme, et on a même la décroissance bigote. Et puis le stalinisme, il nous a promis le paradis sur terre pour après-demain matin, et puis on a connu le goulag, je dirais, cette monstruosité, cette impasse qui a été ce qu'on a appelé le modèle soviétique. Donc moi je suis convaincu qu'il faut aujourd'hui changer notre rapport aux politiques. Ça veut dire changer aussi nos façons de militer. Je sais pas de la peine de le cacher. Il y a souvent beaucoup plus de plaisir à jouer aux cartes avec 3 copains ou à faire partie d'un club de boules qu'à militer, qu'à s'engager dans une organisation politique, syndicale ou associative. Tant que nous reproduirons dans nos propres formes de résistance les modes de fonctionnement de la société qu'on combat, on ne s'en sortira pas. Eh bien, au 19e siècle, je dirais, les anciens, ils parlaient de développer des politiques de l'amitié, de la fraternité. Je crois qu'il faut recommencer par là. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante, parce que je veux chanter au présent. Et quand je dis « je veux chanter au présent », c'est parce que je suis convaincu que, comme le disait Gilles Deleuze, seul le désir est révolutionnaire. Mais quand on dit ça, c'est pas un vœu pieux. Je dirais que moi, je viendrais effectivement pour partager à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, nous sommes face à une crise systémique. Quand on dit crise systémique, ça veut dire que tous les secteurs d'activité sont concernés. Crise économique, crise sociale, crise écologique. C'est-à-dire le grand phénomène majeur du XXe siècle, c'était le développement des classes moyennes. Le grand phénomène majeur de ce début du XXIe siècle, c'est ce que les sociologues appellent la démoyennisation de la société. Cette génération des bac plus 5 à 1000 euros. Et alors je dirais que oui, il y a cette crise systémique, et je dirais face à ça, on a de quoi effectivement s'afficher. Mais en même temps, il y a une bonne nouvelle. L'ONU ne cesse de répéter qu'il suffirait de mobiliser pendant 25 ans 40 milliards de dollars supplémentaires pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars supplémentaires, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Je veux dire, rassurez-vous ou inquiétez-vous, ces 40 ou ces 80 milliards de dollars, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, c'est 1400 milliards de dollars. Le budget du marketing, c'est 850 milliards de dollars. Et ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale, c'est 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'argent sale, c'est 10 à 15% du gâteau mondial, du PIB mondial. À comparer, hein, c'est 10 ou 15% ou même pas 1% que l'on accorde pour ce qu'on appelle l'aide au développement. C'est 40 milliards de dollars nécessaires pour que plus personne ne crève de faim. C'est l'équivalent d'une journée de travail mondial. Eh bien, nous ne sommes même pas capables de consacrer une journée de travail mondial pour régler les besoins essentiels. On le voit, c'est pas un problème de croissance, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix politique. Qu'est-ce qu'on produit? Comment? Et pour qui? Et pour moi, il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas un surcroît de démocratie. Et ça, c'est une urgence. Et je crois qu'il faut se souvenir que la vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des gens incompétents. Ça veut dire, c'est de rendre la parole, effectivement, aux citoyens. Quand on dit ça, c'est pas tenir en propos démagogue, c'est dire que les spécialistes ont un rôle. Le rôle des spécialistes, des experts, c'est de montrer qu'il y a toujours des alternatives, qu'il y a toujours des choix. Et après, oui, c'est aux citoyens de trancher. Eh bien, moi, je fais confiance à, j'allais dire, cette décence des gens ordinaires. Je fais confiance, effectivement, à ce qu'il peut rester ou ce que l'on peut redévelopper des cultures populaires. Et puis, on part pas de rien. C'est vrai que le capitalisme, le productivisme sont des systèmes effroyables. Nous, nous sommes tombés dans la marmite du toujours plus. Il y a 70 ans, on en veut encore. Tant qu'on n'aura rien humainement, anthropologiquement, d'aussi fort que le toujours plus, on n'y arrivera pas. Et la seule chose qui soit à la hauteur, c'est le don, c'est le partage, c'est la gratuité. Pour moi, le grand combat historique, c'est de défendre et d'étendre la sphère de la gratuité. Quand je parle de gratuité, il s'agit d'une gratuité construite, économiquement construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par l'impôt. Politiquement construite, moi j'aime bien ces maires qui interpellent la population et qui disent « Voulez-vous maintenir la gratuité du stationnement pour les voitures ?» Ou préférez-vous qu'on adopte la gratuité de l'eau vitale, 4 litres d'eau par jour et par personne? Eh bien ça, ça remplit les salles, parce que vous partez du quotidien, de l'ordinaire, du vécu des gens. Lorsqu'on a réuni il y a 4 ans le premier forum national sur la gratuité, on a tous été époustouflés par la richesse des expérimentations. Il y a des dizaines de villes qui pratiquent aujourd'hui la gratuité de l'eau vitale. Il y en a d'autres qui pratiquent la gratuité de la restauration scolaire, ou des transports en commun urbains, ou des services culturels, ou même des services funéraires. Ça, j'aime beaucoup la gratuité des services funéraires, parce que regardons comment le capitalisme a évacué la mort. Non seulement aujourd'hui on n'a plus le droit d'être malade, on n'a plus le droit de vieillir, mais il faut se cacher pour mourir. Eh bien moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne remet pas la mort au centre de la vie, non pas pour être morbide, mais pour être au contraire pleinement jouissif. Et ce combat pour la gratuité, il a une traduction politique immédiate. Je suis, moi, favorable à l'adoption d'un revenu minimum garanti. C'est-à-dire le droit à pouvoir bouffer, à avoir un toit, même si on n'a pas d'emploi. Mais il n'y aura pas de revenu garanti si en même temps on ne met pas un revenu maximal autorisé. Je crois qu'il faut véritablement qu'on n'hésite pas aujourd'hui à hausser la garde face au projet qui est celui de nos adversaires, c'est-à-dire le capitalisme vert. Quand on parle de capitalisme vert, on croit souvent que ce n'est que du greenwashing, du verdissement de l'image des entreprises. Ça, c'est l'apparence. Le capitalisme vert, c'est cette volonté d'adapter la planète et même si nécessaire, d'adapter l'humanité aux besoins du toujours plus. Adapter la planète, j'ai dans mon dernier bouquin qui s'intitule « Le socialisme aux gourmands » recensé les 100 projets les plus financés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Vous trouvez par exemple la généralisation des techniques artificielles de modification du climat. Vous trouvez l'idée de créer un immense bouclier artificiel autour de la Terre pour la protéger des rayons du soleil. Vous trouvez l'idée de couvrir 3% du globe pour contrebalancer le doublement des émissions de CO2. Vous trouvez l'idée de développer des arbres OGM, mangeurs de CO2. Et je pourrais continuer pendant des heures. Nous ne l'aurons pas, tout est prêt. C'est-à-dire qu'on calcule déjà le retour sur investissement. Tout est prêt, les fantasmes, le culte de la toute-puissance, de la technoscience. Mais il n'y a pas que la planète que l'on veut adapter. Il y a aussi l'humanité. Quand vous regardez aujourd'hui ce qu'on nous propose, ce qu'on appelle les transhumanistes, et si vous prenez des gens aussi différents en apparence que Jacques Attali, le pape du libéralisme à la française, ou... ça c'est plutôt Alain Madelin, hein, le pape du libéralisme à la française, ou Jacques Attali, eh bien tous les deux se disent fous amoureux de ce qu'on nomme le transhumanisme. C'est cette idée que l'humanité telle que nous sommes, avec nos défauts, nos faiblesses, nos limites, serait inadaptée. Et qu'il faudrait passer à une post-humanité. Et ce qu'on nous propose, c'est d'aller vers un individu appareillé, avec des prothèses techniques intelligentes ou pas. Ce qu'on nous propose aussi, c'est d'utiliser des substances d'amplification cognitive pour pouvoir agir sur la composition biochimique du cerveau. Oui, ça, c'est un vrai projet. C'est un grand projet, c'est celui du capitalisme vert. Eh bien, si, j'allais dire, du côté des gens de peu, comme dit le sociologue Pierre Sansot, c'est du côté des 99%, comme disent les indignés. Nous n'avons pas un projet qui soit aussi fort, aussi désirable, on n'y arrivera pas. Et moi, j'ai envie de rappeler que la gauche, en 1981, avait su libérer un certain nombre de nouveaux territoires. Ça avait été les radios libres, ça avait été les lois aux roues pour la démocratie dans l'entreprise. Eh bien, si aujourd'hui nous n'avons pas la capacité à arracher à la gauche le droit à l'expérimentation, on n'y arrivera pas. Moi, je suis convaincu qu'il y a une intelligence collective qui existe et qu'il faut miser là-dessus. Les gens sont moins bêtes qu'angoissés. Les gens sont moins manipulés que désespérés. Qu'est-ce qu'on propose pour pouvoir résoudre ces angoisses? Qu'est-ce qu'on propose pour donner à rêver?